Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous recevoir ici ce soir. Nous sommes ravis de recevoir Robert Deutsch et Annette Munker qui sera notre interprète toute la soirée. Et nous remercions aussi le Goethe Institut qui est partenaire de cette rencontre. Alors, Robert Deutsch, vous êtes peu connu du public français. Vous êtes graphiste, illustrateur, vous travaillez à Leipzig. Vous avez eu l'occasion d'exposer plusieurs de vos créations à travers le monde, en Allemagne, aux États-Unis, en France, au Portugal ou encore en Finlande. Et il me semble également, pour l'avoir lu, que vous avez été finaliste du prix de la bande dessinée du Bertolt Leibinger Stiftung en 2015. Mais cette bande dessinée que vous venez nous présenter ce soir est votre première bande dessinée. Alors tout d'abord, je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé absolument magnifique, je dirais même troublante et touchante. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte quand vous l'aurez feuilleté, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On est tout d'abord conquis par votre dessin qui est libre, qui est à la fois démesuré et intimiste, et qui à première vue peut contraster avec le sujet, puisque... Si on pense en tout cas qu'il s'agit d'une biographie du mathématicien Alan Turing. Mais ce n'est pas seulement une biographie, ce n'est pas du tout une biographie. On pourrait dire que c'est plutôt un récit intime, intériorisé, parfois avec des nuances assez sombres, sur les quatre dernières années de la vie de Alan Turing, où l'on se rend compte que l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle est un être fragile et tourmenté. Alors même s'il s'agit effectivement plus d'un portrait graphique que d'une biographie, il serait peut-être bon de rappeler pour ceux qui ne le connaissent pas qui était Alan Matheson Turing. Et je vous demande, Robert Deutsch, en quelques mots, au moins pour recontextualiser, pouvez-vous nous rappeler qui était Alan Turing?
Ok, vielen Dank für die Einleitung. Und Alan Turing, auf Alan Turing bin ich gestoßen, das war im Jahre 2012. Da wäre er eigentlich 100 Jahre alt geworden. Und ich habe damals ein Thema gesucht für meine Masterarbeit, als ich studiert habe. Und habe Radio gehört und es gab ein Feature über ihn bei Deutschland Radio Kultur. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, das ist sehr, sehr interessant für mich. Und fing an zu recherchieren und habe das Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn angeschrieben, die eine Ausstellung über ihn gemacht haben zu seinem 100-jährigen Geburtstag. Und die hatten eine Korrespondenz mit Cambridge und sie haben kommuniziert mit der Enigma-Maschine von Paderborn nach Cambridge. Und das fand ich sehr, sehr interessant und habe die eben gefragt, ob die mir Sachen schicken können, weil sie eben eine schöne Übersicht über ihn gemacht haben, über sein Schaffen und über auch die Person von ihm. Und ebenso haben sie mir die Biografie über ihn nahegelegt, die zu lesen. Und die ist sehr, sehr umfangreich. Das habe ich getan. Und da fing ich dann eben an, über Alan Turing eigentlich also richtig nachzudenken. Und habe auch gesehen, dass er eben nicht nur mit der Enigma in Verbindung steht, die ja, mit der er immer in Verbindung gesetzt wird, in jedem Film oder in jedem Buch, was ich gelesen und gesehen habe. Und der tragische Teil seines Lebens, die letzten 4 Jahre, in denen er den Straßenstricher getroffen hat, der eben in dem Buch auch drin vorkommt. Und ich wollte eben diese Geschichte erzählen, weil ich die viel, viel interessanter fand. Da in den Filmen wurde zum Beispiel sein Name oft ausgetauscht. Er tauchte gar nicht als Alan Turing auf. Und für mich war eben klar, das muss ich erzählen. Das ist für mich viel, viel wichtiger. Und habe das dann versucht mit etwas... sehr emotionalen auch zu verbinden. Und deswegen gibt es eben auch die Schneewittchen-Strecke drin. Das ist ja eine Art Parallelwelt in meinem Buch, in die er sich dann flüchtet. Und ja, es gibt die Symboliken des Apfels, die mit drin vorkommt.
Alors, tout d'abord, merci de me recevoir ici. Alors, comment je suis tombée sur Alan Turing? C'était tout d'abord en 2012. En 2012, Turing aurait eu 100 ans. Donc il y a évidemment beaucoup de gens qui s'est intéressé à son histoire. Et en même temps, je cherchais un thème, puisque j'étais à l'université, je préparais mon master, et je cherchais une histoire intéressante sur laquelle je pouvais me pencher. Et donc ça tombait très très bien, puisque les 100 ans de Turing, donc on entendait beaucoup parler de lui, et entre autres, c'était la radio Deutsche Kultur, qui faisait un feature sur lui. Et c'est là que je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment un personnage touchant, troublant, et il va certainement faire une belle histoire. En même temps, il y avait dans le musée Heinz Nixdorf, qui se trouve à Paderborn, il y avait une exposition sur lui, et ils ont fait quelque chose qui est vraiment très, très réussi, parce qu'ils ont essayé de faire communiquer avec la machine Enigma l'université de Paderborn avec celle de Cambridge. Donc vraiment tout le sujet, lui, en tant que mathématicien, scientifique, a été repris sur plein de plans. Mais ce qui manquait un peu, c'était qui était vraiment l'homme qui se cache derrière ce scientifique. Et donc c'est là qu'on lui avait conseillé de prendre un livre qui était la biographie de Alan Turing, et c'était un très très gros pavé, de plusieurs centaines de pages apparemment. Et c'est là qu'il a commencé à beaucoup réfléchir au personnage qui se cache derrière ce grand scientifique. Et pas uniquement d'Enigma, parce que c'est vraiment ça qu'on met en avant absolument partout. Mais le personnage est bien plus complexe que ça. Surtout les dernières années qui étaient vraiment tragiques, c'est là qu'il rencontre quelqu'un dans la rue. Et c'est là qu'on développe toute son histoire d'homosexualité. Et ces choses-là, on ne voit pas tellement ni dans les films ni dans les biographies. Et c'est là qu'il se dit, ça c'est vraiment l'histoire que moi j'ai envie de raconter. Et en même temps, il a profité d'autres détails qu'il avait trouvés dans la biographie, notamment l'intérêt qu'avait Turing pour un des contes de Grimm, Blanche-Neige et les sept nains. Et c'est là qu'on s'est arrêté.
Merci. Alors effectivement, beaucoup de choses viennent d'être dites. Alors effectivement, chez Alan Turing, il y a plusieurs facettes. La facette la plus connue de Alan Turing, pour ceux qui auraient vu notamment le film Imitation Game, excellent film, le Alan Turing que nous connaissons tous, c'est ce mathématicien et cryptologue britannique qui a été engagé pour travailler auprès des services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a eu ce génie mathématique de développer une machine pour contrer une autre machine. Donc c'est vraiment, il est connu grâce à ses prouesses de mathématicien. Et certains historiens diraient qu'il aurait raccourci la Seconde Guerre mondiale de 2 ans et sauvé 14 millions de vies humaines. Alors ce qui est particulièrement touchant dans votre bande dessinée, c'est que effectivement, ce n'est pas ce Alan Turing là qui est mis en avant, car on commence à la fin de sa vie, à l'époque où il est reconnu comme mathématicien, il est devenu chercheur travaillant sur l'intelligence artificielle, car c'est un des grands théoriciens de l'intelligence artificielle. Et effectivement, ça commence même précisément par le jour de son suicide. Et nous revenons ensuite 4 ans en arrière pour comprendre un petit peu comment il en arrive à se suicider. Et alors c'est là où c'est tout à fait intéressant, parce que on a, et c'est très bien, du mal à démêler le politique et l'intime en fait. Tout se mélange. Parce que, alors je peux peut-être vous laisser la parole, qu'est-ce qui justement dans ce cheminement a conduit Alan Turing à se suicider en 1954, et on reviendra après sur Blanche-Neige, parce que c'est tout à fait intéressant ça aussi.
Ja, erstmal ganz kurz, als ich gelesen habe, wer er eigentlich ist und woran er geforscht hat und woran er maßgeblich beteiligt war, ist mir eben auch aufgefallen, woher kommen eigentlich die Ideen von jemandem, der sich mit so einem Thema beschäftigt. Ne? Zu der Zeit waren die Computer ja noch nicht erfunden, er hat ja maßgeblich dazu beigetragen, und ich habe eben gelesen, was er als Kind auch bekommen hat, ne? Zu lesen von seiner Familie aus oder auch von Fremden, und das hat mich fasziniert auch, dass er dieses Buch geschenkt bekommen hat von einem englischen Freund, was ihn eigentlich auch zu den Naturwissenschaften gebracht hat. Das sind auch so Kleinigkeiten, die ich in dem Buch mit erzählen wollte und auch gemacht habe. Und wollte natürlich auch hinterfragen für mich, wie kommt man auf die Idee überhaupt, künstliche Intelligenz zu erschaffen, wozu braucht man das? Und da er ja diesen Jugendfreund hatte, dachte ich mir natürlich, also der Jugendfreund war eigentlich maßgeblich für mich in der Geschichte, dass er angefangen hatte, eben danach zu suchen, wie kann ich diesen Geist von meinem Jugendfreund wieder zurückholen. Und ich finde, das hat für mich irgendwie geklappt. Und der Tod, warum er sich mit dem Apfel vergiftet hat, ist natürlich wichtig für mich gewesen, dieses Symbol des Apfels und des Schneewittchens mit in meine Geschichte zu nehmen, weil er diesen Film Schneewittchen sehr mochte und er sich am Ende ja auch mit einem cyanidvergifteten Apfel das Leben genommen hat. Und er wurde eben von der britischen Regierung dazu getrieben, zu diesem Selbstmord, weil er eine Hormonbehandlung bekommen hat. Zu der damaligen Zeit war es eben verboten, homosexuell zu sein, straflich verfolgt. Und er wurde sozusagen in den Tod getrieben für das, was er getan hat. Und das fand ich eben auch, war fatal gewesen, dass eine Regierung ihn dazu, oder dass er depressiv wird, wegen etwas, was völlig normal ist, also worüber man eigentlich heutzutage fast nicht mehr spricht. Mhm. Und das fand ich eben auch faszinierend, weil man auch Parallelen sehen kann heutzutage, dass sowas auch nicht mehr passiert und man solche Sachen auch einfach erzählen muss. Ich finde, das ist sehr, sehr entscheidend. Und deswegen ist das auch für mich eines der Argumente gewesen.
Alors, il a dit, je vais faire court. alors, tout d'abord, il voulait vraiment savoir qui est Alan Turing. Donc, pourquoi il s'est intéressé à la recherche? Pourquoi il a voulu devenir un mathématicien, un scientifique? D'où est-ce qu'il a trouvé l'inspiration de ses idées, de ses questionnements, de tout ce qu'il voulait mettre en œuvre dans sa vie? Il parle là de lui quand il est encore enfant, alors que les ordinateurs n'existaient pas, que tout ça, c'était encore quelque part la science-fiction. Mais il a beaucoup lu en tant qu'enfant, donc ses parents lui ont donné des livres, également un ami de la famille, et c'était souvent des livres qui parlaient de la scientifique. Et c'est ça vraiment qui a fait qu'il a développé toute cette appétence, si je peux dire, pour tout ce qui est technologie, mathématiques, et d'aller en avant. Lui, il a beaucoup aimé tous ces petits aspects pour les développer, pour vraiment trouver le fond du personnage de Turing. Par exemple, comment à l'époque est-ce qu'il a déjà pu penser à cette intelligence artificielle et comment est-ce qu'on développe tout ça? C'est vraiment tout cet acheminement qui l'a intéressé. Et il parle aussi de son ami qu'il a eu pendant son enfance et ça se traduit vraiment dans sa volonté qu'il a de le faire revenir parce qu'il voit toujours un fantôme qui est son ami qui a disparu très jeune et qu'il a envie de rattraper. Donc ça nous amène aussi de parler de la mort et aussi de la mort de Turing lui-même. Et c'est la raison pour laquelle la pomme, qui revient plusieurs fois aussi dans le livre, est vraiment importante et qui évidemment nous ramène une fois de plus à ce conte de Blanche-Neige. Alors pourquoi il a opté pour le suicide? Probablement parce que le gouvernement britannique l'a poussé à cet acte. Il faut savoir qu'à l'époque, toute vie homosexuelle était totalement bannie. C'était quelque chose qui ne se faisait pas, qui était poursuivi, qui c'était criminel. Et Monsieur Deutsch dit que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ça paraît impensable pour nous. Et c'est pour ça que c'était important pour lui de montrer cette histoire que quelqu'un à cette époque-là, puisque c'est quand même pas si vieux que ça, on l'a poussé dans la dépression, on l'a poussé à prendre des hormones pour quelque part qu'il prenne un chemin normal. Et c'est toute cette histoire aussi qu'il a vu démontrer en parallèle et qui a mené à la mort de Alan Turing.
Alors effectivement, l'enfance et l'obsession de l'enfance est extrêmement présente. L'enfance qui côtoie la mort, donc on le voit effectivement. Comme vous venez de le dire, par rapport à son souvenir de Christopher, qui est son, ce garçon dont il était très épris quand il était enfant, qui revient, et cette pomme, donc pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, Alan Turing s'est donné la mort en croquant dans une pomme qu'il avait trempée dans du cyanure. Voilà, donc d'où ce parallèle, effectivement, comme un film narratif. On pourrait même dire que Blanche-Neige est presque la narratrice, en fait. Et c'est, et je tiens, et alors moi j'ai adoré parce qu'effectivement, c'est truffé de toutes ces petites références entre Blanche-Neige, alors qui ouvre l'histoire en jouant du violon et qui conclut l'histoire en jouant du violon aussi. Elle est là au début, elle est là à la fin. Et tout au long de la bande dessinée, il y a des apparitions assez furtives des nains. Et c'est absurde sur la liste et parfois drôle. alors que l'histoire, le fond de l'histoire est sérieuse, même assez triste. Donc ça apporte une touche décalée qui est vraiment intéressante. Donc effectivement, on sent ce personnage Alan Turing qui est pourtant, on peut le dire, un héros de guerre. Fragile, hanté par ses souvenirs et appelé comme ça un peu vers une mort future. Et j'aimerais bien maintenant un peu plus vous interroger sur la partie graphique, en fait, parce que donc c'est la première bande dessinée que vous réalisez. Et alors, bon, moi je trouve que c'est très très beau. Vous avez des perspectives un peu distordues, vous jouez beaucoup sur les formes un peu flottantes. Il y a une espèce de voisinage entre des scènes de dessins d'enfants avec des visions cauchemardesques. J'ai quand même l'impression que le dessin sort du cadre, en fait, comme s'il se déployait, comme si vous aviez besoin. Et on peut faire, enfin, moi je le comprends comme ça, un parallèle avec le cerveau et l'esprit de Alan Turing. Il y a un dessin comme ça qui se déploie. Alors j'aimerais savoir comment vous avez travaillé. Est-ce que vous avez fait un storyboard? Est-ce que la case a été une limite, en fait, dans votre dessin?
Da ich sehr, sehr gerne farblich arbeite, war das erstmal für mich klar gewesen, dass ich sofort mit der Farbe beginne, eben mit Acryl auf Papier. Und das sind auch immer große Originale. Die sind im Buch etwas kleiner geworden. Und diese Art des Stils, die kommt auch daher, das hat auch mit einer bestimmten Naivität irgendwie zu tun. Da ich in Halle studiert habe und Attac, den kennen vielleicht einige hier in Frankreich, weil er auch Kinderbücher gemacht hat, mein Lehrer war, hat uns oft die Art Brü nahegelegt. Wir waren sehr oft in Museen und hat mir sehr gefallen und ich mochte eben diese Art dieser naiven und einfachen Erzählung und das ist natürlich etwas, was mir sehr gefällt. Und ich habe versucht, das natürlich damit in das Buch zu bringen, weil ich auch wusste und gelesen habe, dass Alan Turing auch einen gewissen Humor hatte. Und diesen Humor habe ich versucht, eben auch in die Zeichnung zu übertragen. Ich weiß, dass es viele Verzeichnungen darin gibt. Ich fand es aber nicht schlimm. Gehört für mich mit dazu. Und habe versucht, dann für mein Storyboard, nachdem ich gelesen habe, was mich interessiert, Schlüsselmomente für mich zurechtzulegen. Und habe mich dann von einem Schlüsselmoment zum nächsten gearbeitet und habe eben darin ein Storyboard entwickelt und habe auch ziemlich frei erzählt. Also es gab für mich kein striktes Storyboard, sondern ich habe wirklich von Schlüsselmoment zu Schlüsselmoment gezeichnet und habe mir manche Strecken zurechtgelegt und manche wusste ich noch gar nicht genau, wie sie aussehen. Das war eine kleine Überraschung. Ich mag das so zu arbeiten und was die Stilistik angeht, habe ich versucht, in dem Buch je nach Gefühlslage von Turing einmal die farbige Ebene, dann die blaue Traumebene oder die, wo er retrospektiv erzählt, die Sache darzustellen. Ebenso die repressive Strecke, wo er dann depressiv, wo er bei seinem Psychologen sitzt, Psychiater. Und das Gespräch führt und dann eben erzählt, wie es ihm geht, nachdem er die behandelt hatte.
C'est le rapport peut-être que vous avez eu avec la bande dessinée qui forcément raconte une histoire, donc est obligé d'avoir un format, même si j'imagine que vous faites des grandes planches pour les réduire ensuite, mais il y a quand même toujours il y a une narration, il y a un texte, donc voilà, c'est à nouveau une nouvelle façon de travailler peut-être.
Ja, ich hatte an meiner Schule kein Comic-Workshop oder dadurch, dass ich Comics gelesen habe, wusste ich, dass man so ungefähr wie man Comic erzählen kann, aber ich habe jetzt noch nie einen roten Faden gelernt oder so, wie man sich an eine Geschichte stürzt oder dran bearbeitet. Und das war für mich sehr, sehr frei gewesen und ich wollte es auch frei machen, da ich auch Künstler bin. Und für mich ist es auch eine neue und eigene Art von Erzählung, auch die Sache mit der Biografie zu verbinden, eben in dieser Art der Erzählung. Und mir wurde auch gesagt, dass es schon eine eigene und auch sehr seltsame Art zu erzählen ist, aber ja, das ist eben auch eben meine Geschichte. Es ist schon eine neue Art ranzugehen, auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn man sich auch an einen Comic setzt, macht man erst vorher ein Storyboard und schreibt den Text und man weiß genau, was wo steht. Und ich habe das eben gar nicht gemacht. Also ich wusste schon, was ich erzählen möchte, welchen Textinhalt und habe mir auch Sachen freigelassen für den Text. Aber ich habe in erster Linie erstmal an die Bilder gedacht. Das war für mich wichtig.
Moi, j'ai au moins compris Storyboard. Au moins. Et Schuller.
Alors, avant tout, Monsieur Deutsch, il aime les couleurs. Et je pense que c'est quelque chose qui se ressent beaucoup dans son œuvre. Donc, pour lui, il faut que ce soit vraiment très coloré. Donc, il a dessiné avec de l'acrylique sur papier et ça donne en fait des planches énormes. Et ce que vous voyez dans la BD, bien que le format reste quand même assez sympathique, mais c'est beaucoup, beaucoup plus petit que ce qu'il crée en réalité au début. Le style, il aime bien la naïveté, il aime bien les livres d'enfants. Et on retrouve clairement ceci dans le style qu'il emploie pour ses propres œuvres. Et certainement aussi, ça va très bien avec le fait qu'il lit toujours cette histoire de Blanche-Neige dans l'histoire d'Alan Turing. Donc, effectivement, on peut l'appeler naïf et simpliste, peut-être, mais c'était totalement voulu. Et ça contraste bien aussi avec le côté très sérieux du scientifique, mais ça relate aussi cet homme qui avait beaucoup d'humour. Et c'est justement ça que cela doit traduire. C'est un homme qui aimait blaguer, c'est un homme qui avait d'autres facettes que le côté vraiment très strict des sciences. Alors, Il n'a jamais appris vraiment à l'école comment on fait une bande dessinée. Donc il s'est octroyé beaucoup de liberté et c'est quelque chose qu'il chérit. Autant que les couleurs, il chérit la liberté. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on sent très bien dans ce livre. Alors en fait, comment est-ce qu'il a écrit ? Est-ce qu'il a eu un storyboard ? Tiens le mot.
Oui, le fameux mot.
Non, il n'en a pas vraiment eu. Il savait bien sûr quel était le fil conducteur qu'il voulait donner à l'histoire, mais il ne s'était pas dit ça va être d'abord ça et ensuite ça et après ça, telle et telle anecdote. Non, c'était quelque chose qui était beaucoup plus fluide. Il y avait des moments clés et il a travaillé de moment clé à un autre moment clé. Donc parfois il savait vraiment dès le début ce qu'il voulait mettre sur papier, parfois non, et il s'est laissé guider, donc toujours cette liberté. Donc après le style et les couleurs traduisent toujours aussi une atmosphère. Donc il a utilisé le bleu quand il parlait des rêves, il a mis des couleurs un peu plus jaunâtres quand il parlait des rétroperspectives, comme du papier qui est un peu jauni. De la phase où on trouve un Alan Turing dépressif, où on le trouve chez le psychiatre pour parler de ce qui lui arrive et de ce changement ou de ce traitement hormonal qu'il est obligé de prendre, on trouve également un autre trait dans ses dessins. Donc il répète encore une fois que quand il était à l'école, il n'y avait vraiment rien qui le prédestinait pour après se pencher sur les bandes dessinées. Il se voit vraiment comme artiste, donc il est libre, et il peut interpréter comme il le souhaite le sujet qu'on lui donne. Donc c'est vraiment sa propre histoire pour raconter cette histoire. Donc ce sont surtout les images qui le guident, et non pas le texte. Donc ça ne commence pas par le texte, ça commence vraiment par le coup de crayon. Et les couleurs.
Oui, on sent aussi qu'il y a une partie légèrement différente d'un point de vue de la narration et du dessin aussi, du coup. C'est lorsque Alan Turing est au commissariat, au moment où il annonce qu'effectivement il a été cambriolé par son amant et qu'il est obligé de révéler son homosexualité. Et c'est un passage qui est particulièrement touchant. On parlait de naïveté, mais c'est vrai que vous nous peignez à Alan Turing innocent un petit peu, puisque un peu pris en défaut par son homosexualité, attaqué, il rétorque « Oui, mais j'ai beaucoup œuvré pour l'Empire britannique. » Et c'est en fait vers la fin de l'histoire que nous avons droit, enfin, entre guillemets, au Alan Turing qu'on attend tous, classique.
J'ai pas compris les liens, donc il...
Que nous avons droit, entre guillemets, au Alan Turing que nous attendons tous, en fait, c'est-à-dire le Alan Turing qui raconte un petit peu ce qu'il a fait. Mm-hmm. Et là, on se rend compte que le dessin devient peut-être un peu plus classique, la narration prend beaucoup plus de place. Et je voulais vous demander si ce passage vous avait demandé beaucoup de travail, autant d'un point de vue de la documentation scientifique, parce que vous arrivez en quelques planches à synthétiser quand même tous les travaux de Alan Turing, donc bravo, et à travailler en bande dessinée sur un dessin qui suit, comment dire, une narration voix off un petit peu, je ne sais pas trop comment le dire autrement. Mm-hmm. Voilà, en fait ce serait ça, ce serait vraiment la partie documentation scientifique et puis parce que c'est un passage qui est quand même bon, qui est important et puis surtout où enfin on se dit oui voilà c'est quand même il se fait attaquer, on sent qu'il est vraiment tourmenté et voilà il se dit oui mais je suis Alan Turing. Mm-hmm. Il y a ce moment un peu
genau der Rahmen als ich gelesen habe dass Alan Turing gesagt hat zur Polizei, er hat ja ein Statement geschrieben, dass er sich dazu bekennt, weil er sich dafür nicht geschämt hat, dass er homosexuell ist, habe ich gedacht, dass man eben auf dieser Polizeistation sagen kann, dass man ganz offen darüber reden kann und dass man eben auch als Kontrast dagegen setzt, was er für dieses British Empire getan hat. Und als ich mich dann mit den Zahlen beschäftigt habe, mit dem wissenschaftlichen Aspekt, ist mir eben aufgefallen, dass es super komplex ist. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das nicht weiter auszuweiten, sondern eben als Kontrast die Sache auch recht rätselhaft darzustellen, weil wenn man das liest, so ging es mir auch, versteht man erstmal nichts. Wenn man jetzt nicht jemand ist, der sich mit der Enigma auseinandergesetzt hat oder mit der Art des Dechiffrierens und deswegen dachte ich mir, gebe ich sozusagen wie der Polizei ein Brett vor den Kopf, so. Sagt man irgendwie im Deutschen, dass die erstmal auch nicht wissen, worum es geht. Natürlich auch nicht der Leser, weil darum geht es ja in meiner Geschichte jetzt auch nicht so, sondern es geht ja um die restlichen 4 Jahre, die er verbracht hat. Und ich habe das gelesen und habe das mehrmals gelesen.
Was? Hast du mehrmals gelesen?
Die technische Seite von ihm, das, was ich in meinem Buch habe. Mhm. Und habe mich dafür entschieden, eben rätselhaft zu bleiben und das nicht aufzuschlüsseln.
Ist gelungen.
Ja.
On rira plus tard, nous.
Oui, pardon.
On décalé. Non, non, mais pas de problème.
Je fais. Pardon. Donc, quel était le cadre, en fait? Le cadre est que Alan Turing, il a écrit très ouvertement sur son homosexualité. Donc, pour lui, c'était pas quelque chose qu'il fallait cacher. Au contraire, c'était quelque chose dont on pouvait parler. Et justement, en contraste avec le personnage qu'il était, mais je suis quand même le Alan Turing, alors pourquoi est-ce que j'ai pas droit à ma vie, à moi, à côté de ça?
Alors, si je peux me permettre une question, à la fin de sa vie, il n'était pas connu, Alan Turing, en fait.
Also unter Kollegen war er bekannt gewesen für das, was er getan hat, weil er war auch in Amerika und es gab auch einen regen Austausch, zuvor auch mit den Deutschen, bevor sie eben den Zweiten Weltkrieg begannen. Und niemand wusste eigentlich davon, dass er ausgezeichnet wurde vom britischen Empire. Er ist, glaube ich, sogar beknallt, also nicht, das kommt später, aber er hat den den Order of British Empire bekommen, aber er konnte ihn niemandem zeigen und hat ihn deswegen weggeschmissen. Ja. Also das sagt eigentlich alles.
Okay. Bon, en fait, il donne plutôt une anecdote qui va tout illustrer. Donc en fait, Alan Turing, il était surtout connu par ses semblables, par des gens avec qui il travaillait pour les sciences pour lesquelles il est vrai. Il est vrai qu'il a été également pas mal à l'étranger, donc il a voyagé en Amérique. Il a travaillé aussi avec les Allemands, mais avant la Deuxième Guerre mondiale, bien évidemment. Et aussi, il a reçu un ordre de l'Empire britannique. Et cet ordre, et c'est là que ça illustre vraiment tout, il a tout simplement jeté.
D'ailleurs, il figure, vous le faites figurer sur la porte, quand les deux journalistes ouais. arrivent et voient, effectivement.
Il a auch so ein Zeichen an seiner Bürotür.
Il note.
Mais je vous dois encore la deuxième partie.
Pardon,
de...
désolé, j'étais un peu trop spontané.
Il faut juste que je me retrouve, donnez-moi juste une seconde. Donc on parlait du scientifique, et que, ah oui, pourquoi il avait, ou comment il avait pensé, et comment il avait réalisé tout le côté de cette machine, comment il avait introduit dans la BD, parce que là on a affaire quand même à un artiste, et non pas non plus à un vrai et pur scientifique. Et donc il dit que c'est quelque chose qui était extrêmement complexe et il a essayé de le décrire dans son œuvre comme quelque chose qui reste également très mystérieux et il dit que lui-même, il ne comprend pas tout. Il espère que vous non plus. Moi, honnêtement, non. C'est pour ça qu'on rigolait tout à l'heure. Nous non plus. Enfin, moi non plus. Ça, je veux juste clairement le dire que je n'ai pas compris. Et justement, j'ai aussi... relu plusieurs fois cette page pour me dire je suis quand même pas si bête que ça et il dit lui aussi quand il a écrit cette page il a relu à plusieurs reprises et à chaque fois en se disant ouais c'est bien ça garde un certain mysticisme, ça garde beaucoup de questionnements auxquels moi non plus j'ai pas la réponse donc tout ça c'était assez volontaire pour nous garder dans cette ambiance scientifique qui est peut-être pas la nôtre donc c'est ça aussi quand il parle avec les policiers quand il se trouve à être questionné, c'est vraiment de mener tout le monde un peu en bateau, de se dire on est un peu borné, on a un peu comme en allemand on dit qu'on a une planche devant la tête, donc on peut pas vraiment réfléchir. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il a traité le sujet scientifique qui accompagne quand même vraiment la vie d'Alan Turing et qui a fait sa notoriété, même s'il n'a pas totalement vécu de son vivant.
Je pense justement à cet épisode où les deux journalistes viennent rendre visite à Alan Turing alors qu'il est scientifique en train de travailler sur l'intelligence artificielle et son fameux Imitation Game d'ailleurs. Et là, il répond aux questions et il explique la nature de ses travaux et le fait que ses travaux peuvent être utilisés par l'armée. Et ensuite, les journalistes partent en voiture et ils se font assassiner parce que d'autres personnes font en sorte que la voiture tombe dans un ravin. Et en fait, là, ça montre une fois de plus peut-être une certaine naïveté de la part de Alan Turing, puisque quand on le lit, on se dit mais c'est bizarre qu'il raconte tout ça alors que c'est censé être confidentiel. Et une deuxième chose, c'est est-ce que cet événement est factuel, réel? Ou est-ce que vous l'avez imaginé? Et d'une manière plus générale, est-ce que vous avez imaginé certaines choses dans votre livre? Et là, c'est la question aussi de la part d'interprétation, en fait, de tout ce que vous avez pu rajouter à la biographie d'un point de vue factuel.
Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass er ein Interview geführt hat mit Journalisten, aber die sind nicht umgekommen. Das war für mich eben eine Metapher in meinem Comic, dass er geheime Informationen weitergegeben hat und dafür mussten die Journalisten eben sterben. Also es war ganz klar, ist das eine stilistische Erzählung von mir. Es hat so nicht stattgefunden.
Alors, il est vrai. Il est vrai que j'ai pris quelques libertés artistiques. Ce qui est vrai aussi, c'est que des journalistes sont venus l'interviewer et que Alan Turing a, entre autres, évoqué des informations confidentielles. Après cet accident qui a été voulu, ça c'est plutôt une métaphore dont il se servit pour illustrer ce qui aurait pu se passer. Et voilà, donc c'est vraiment ça. C'est quelque chose, c'est son imagination, et il s'en est servi pour inclure ça dans l'histoire.
Merci beaucoup, Robert Deutsch. Merci énormément.